Chapitre 15. Parmi les ministres, M. de Talleyrand seul se montrait en état d'exercer l'influence de la perspicacité, mais seulement au dehors. Au-dedans, un grand ressort manquait, celui de la police générale, qui pouvait rallier le passé au présent et garantir la sécurité de l'Empire. Napoléon lui-même sentit le vide et, par décret impérial du 10 juillet, il me rétablit à la tête de la police en m'investissant d'attributions plus fortes que celles que j'avais eues avant l'absurde réunion de la police à la justice. Ici, je sens qu'il me faut presser ma marche et mes récits, car il me reste encore à parcourir un laps de 6 années fertile en événements mémorables. Ce cadre est immense. Raison de plus pour laisser de côté tout ce qui est indigne de l'histoire, pour n'indiquer ou ne révéler que ce qui mérite d'occuper son burin. Mais rien d'essentiel ne sera omis. 2 jours avant le décret qui me rappelait, j'avais été mandé à Saint-Cloud en conférence particulière dans le cabinet de Napoléon. Là, j'avais établi, pour ainsi dire, mes conditions, en faisant revêtir de l'approbation impériale les bases qui complétaient l'organisation nouvelle de mon ministère. Réal y avait aspiré en récompense de son zèle dans la poursuite de la conspiration de Georges, mais habile explorateur et bon chef de division, il n'était ni de force ni de taille à faire mouvoir une pareille machine. S'il n'eut pas le ministère, il fut largement récompensé en espèces sonnantes auxquelles il n'était pas insensible, et de plus, il fut un des 4 conseillers d'État qui me furent adjoints dans la partie administrative pour correspondre avec les préfets des départements. Les 3 autres conseillers furent Pelet de la Lozère, créature de Cambacérès, Millot, créature de Joseph Bonaparte et Dubois, préfet de police. Ces 4 conseillers s'assemblaient une fois par semaine dans mon cabinet pour me rendre compte de toutes les affaires de leur ressort et prendre ma décision. Je me débarrassais par là d'une foule de détails fastidieux, me réservant de planer seul sur la haute police dont la division secrète était restée sous la direction de Desmarets, homme souple et rusé mais à vue courte. C'était dans mon cabinet que venaient aboutir les hautes affaires dont je tenais moi-même les fils. Nul doute que je n'eusse des observateurs soudoyés dans tous les rangs et dans tous les ordres. J'en avais dans les 2 sexes, rétribués à 1 000 et 2 000 francs par mois, selon leur importance et leur service. Je recevais directement leur rapport par écrit avec une signature de convention. Tous les 3 mois, je communiquais ma liste à l'empereur pour qu'il n'y eût aucun double emploi, et aussi pour que la nature des services tantôt permanents, souvent temporaires, pût être récompensée, soit par des places, soit par des gratifications. Quant à la police dans l'étranger, elle avait 2 objets essentiels, savoir de surveiller les puissants amis et de travailler les gouvernements ennemis. Dans l'un et l'autre cas, elle se composait d'individus achetés ou pensionnés près de chaque gouvernement et dans chaque ville importante, indépendamment de nombreux agents secrets envoyés dans tous les pays, soit par le ministre des Relations extérieures, soit par l'empereur lui-même. J'avais aussi des observateurs au dehors. C'était en outre dans mon cabinet que venaient s'amasser les gazettes étrangères interdites au regard de la France et dont on me faisait le dépouillement. Par là, je tenais les fils les plus importants de la politique extérieure et je faisais avec le chef du gouvernement un travail qui pouvait contrôler ou balancer celui du ministre chargé des relations extérieures. Ainsi, j'étais loin de me borner à l'espionnage pour attribution. Toutes les prisons d'État étaient à mes ordres, de même que la gendarmerie. La délivrance et le visa des passeports m'appartenaient, j'étais chargé de la surveillance des étrangers, des amnistiés, des émigrés. Dans les principales villes du royaume, j'établis des commissariats généraux qui étendirent sur toute la France, et principalement sur nos frontières, le réseau de la police. La mienne acquit un tel crédit que, dans le monde, on alla jusqu'à prétendre que j'avais parmi mes agents secrets 3 seigneurs de l'ancien régime, titrés de princes, et qui chaque jour venaient me donner le résultat de leurs observations. J'avoue qu'un pareil établissement était dispendieux. Il engloutissait 1 000 000 dont les fonds étaient faits secrètement par des taxes levées sur les jeux, les lieux de prostitution et la délivrance des passeports. Tout a été dit contre les jeux, mais d'un autre côté, les esprits sages et positifs sont forcés de convenir que, dans l'état actuel de la société, l'exploitation légale du vice est une amère nécessité. La preuve qu'on ne doit point en attribuer tout l'odieux au gouvernement de la Révolution, c'est qu'aujourd'hui encore, les jeux font partie du budget de l'ancien gouvernement rétabli. Puisque c'était un mal inévitable, il fallut bien le régulariser afin de maîtriser au moins le désordre. Sous l'Empire, dont l'établissement coûta près de 400 millions, puisqu'il y eut 30 maisons à équiper en majesté et en altesse, il fallut organiser les jeux sur une plus grande échelle, car leurs produits n'étaient pas seulement destinés à rétribuer mes phalanges mobiles d'observateurs. Je nommai administrateur général des Jeux de France Perrin l'aîné, qui en avait déjà la ferme et qui, après le sacre, étendit son privilège sur toutes les grandes villes de l'Empire, moyennant une rétribution de 14 millions et de 3000 francs par jour au ministre de la Police. Mais tout ne restait pas dans les mains du ministre. Tous ces éléments d'un immense pouvoir ne vinrent point expirer inutilement dans mon cabinet. Comme j'étais instruit de tout, je devais réunir en moi la plainte publique pour signaler au chef du gouvernement le malaise et les souffrances de l'État. Aussi, je ne dissimulerai pas que je pouvais agir sur la crainte ou la terreur qui assiégeait plus ou moins constamment l'arbitre d'un pouvoir sans bornes. Grand explorateur de l'État, je pouvais réclamer, censurer, déclamer pour toute la France. Sous ce point de vue, que de mots n'ai-je empêchés ? S'il m'a été impossible de réduire, comme je l'aurais voulu, la police générale à un simple épouvantail, à une magistrature de bienveillance, j'ai au moins la satisfaction de pouvoir affirmer que j'ai fait plus de bien que de mal, c'est-à-dire que j'ai évité plus de mal qu'il ne m'a été permis de bien faire, ayant presque toujours eu à lutter contre les préventions, les passions et les emportements du chef de l'État. Dans mon second ministère, j'administrais bien plus par l'empire des représentations et de l'appréhension que par la compression et l'emploi des moyens coercitifs. J'avais fait revivre l'ancienne maxime de la police, savoir que trois hommes ne pouvaient se réunir et parler indiscrètement des affaires publiques sans que, le lendemain, le ministre de la police n'en fût informé. Il est certain que j'eus l'adresse de répandre et de faire croire que partout où quatre personnes se réunissaient, il se trouvait à ma solde des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Sans doute une pareille croyance tenait aussi à la corruption et à l'avilissement général. Mais d'un autre côté, que de mots de regret et de larmes n'a-t-elle pas épargné ? Ainsi la voilà connue, cette grande et effrayante machine appelée « Police générale de l'Empire ». On s'imagine bien que, sans en négliger les détails, je m'occupais bien plus de son ensemble et de ses résultats. L'Empire venait d'être improvisé sous de si affreux auspices, et l'esprit public était si mal disposé, si récalcitrant, que je crus devoir conseiller à l'empereur de faire diversion, de voyager, de rompre enfin ses dispositions malveillantes et dénigrantes contre sa personne, sa famille et la nouvelle cour, plus que jamais en butte au brocard des Parisiens. Il adopta mes idées et se rendit d'abord à Boulogne, où il se fit élever, pour ainsi dire, sur le pavois par les troupes campées aux environs. De Boulogne, il se dirigea sur Aix-la-Chapelle, et là il reçut les ambassadeurs de plusieurs puissances qui, toutes, à l'exception de l'Angleterre, de la Russie et de la Suède, s'empressaient de le reconnaître. Parcourant ensuite les départements réunis et arrivant à Mayence, il y fut visité par un grand nombre de princes d'Allemagne. Il revint à Saint-Cloud à la fin de l'automne. L'état politique de l'Europe exigeait plus de ménagement que de roideur. Un acte d'emportement et de colère de la part de l'empereur faillit tout compromettre. Il fit enlever à Hambourg par un détachement de soldats Sir George Rumbold, ministre d'Angleterre. On prit ses papiers et on le conduisit à Paris au Temple. Cette nouvelle violation du droit des gens souleva toute l'Europe. Monsieur de Talleyrand et moi, nous tremblions que le sort du duc d'Enghien ne fût réservé à Sir George. Nous mîmes tout en œuvre pour le soustraire à une condamnation prévôtale. Les papiers de Sir George m'étant tombés dans les mains, j'eus soin de pallier tout ce qui aurait pu le charger d'une manière grave. L'intervention de la Prusse, que nous excitâmes secrètement, acheva ce que nous avions si bien commencé, le ministre Humboldt fut mis en liberté sous la condition de ne plus mettre les pieds à Hambourg et de se tenir désormais à 50 lieues du territoire français, condition que je proposais moi-même. Je ne pouvais rien contre les résolutions brusques et inopinées, et il ne me restait alors aucun moyen d'éluder ou de conjurer les actes ténébreux qui, foulant aux pieds les formes de la justice, étaient exercés par un ordre direct émané du cabinet et commis à des subalternes hors de mes attributions spéciales. J'étais moi-même plus ou moins en butte à la malveillance du préfet de police. À l'époque de la première affaire du général Mallet, il me dénonça directement à l'empereur comme protégeant Mallet sous main et de plus comme ayant averti Masséna de certaines charges qui pesaient sur lui et fait disparaître certains papiers qui le compromettaient. Il s'agissait, disait-on, d'intrigues qui avaient des ramifications dans l'armée et dans la haute police. Je démontrai à l'empereur que tout ceci se bornait à avoir prémuni Masséna contre les menées de certains brouillons et intrigants dangereux.